Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur choc.ca avec Marie-Ève au micro pour cette émission du 31 octobre. Pour nous, les Apatrides Anonymes, c'est un peu l'Halloween à l'année, hein? Parce que...
Noir les horreurs.
Les histoires d'horreur, effectivement, de squelettes dans le placard, de monstres qui tirent les ficelles des gouvernements, de vampires qui se nourrissent du malheur des autres, de chasse aux sorcières ou d'ogres à la tête de régimes dictatoriaux, ben... On vous en livre deux fois par mois depuis maintenant près de 6 ans. Je suis toujours en compagnie de mes deux valeureux chevaliers des justes causes.
Oh.
J'ai nommé Mathieu avec moi en studio.
Bonsoir.
Glaive à la main. Et Simon qui est en régie armé d'un pieu.
Le fantôme de la régie. Salut.
Et qu'on va évidemment entendre plus tard. Alors ce soir, on va se faire encore une fois un malin plaisir d'éclairer de nos lanternes les manigances des donneurs de bonbons empoisonnés.
Même de chandelles.
Effectivement. Simon, lui, ben, va assurer les volets local et national des actualités entourant les enjeux autochtones, mais aussi le racisme et, gobelins, parmi les gobelins, la police.
Ouais, ben, je vous voyais pas, mais je suis déguisé en police.
Simon, y a-tu un vilain qui sort du lot de tes nouvelles?
Je dirais le gouvernement fédéral dans son ensemble, peut-être.
OK, c'est bon.
C'est un peu large, là, je suis désolé.
Mais... C'est le grand vilain.
C'est le grand vilain, c'est ça, le master villain. Une en particulier, Mathieu, qui devrait nous faire frémir. Mathieu, lui, toi, ça va être le volet international aussi, avec plusieurs histoires d'épouvante. Et laquelle devrait nous faire frémir le plus?
Ben, disons qu'en République dominicaine, avec les Haïtiens, c'est assez violent.
OK, bon, ben...
Effrayant, même.
Effrayant. Ben, de mon côté, je vais vous présenter une sélection d'événements militaires à pas manquer, puis je vais aussi vous parler des infâmes élections américaines. Je vous amène au Rwanda où des centaines de migrants évacués de Libye croupissent en centre de transition. Et j'aurai aussi deux bonnes nouvelles quand même, dont une en lien avec la police et l'autre avec la patridie. Je mentionnais tout juste la patridie là, en intro d'émission. D'abord, c'est quoi la patridie? Ben, définit simplement, une personne est considérée apatride lorsqu'elle n'a ni nationalité ni protection d'un État. Selon la Convention de l'ONU sur l'apatridie, qui date de 1954, il s'agit de, et je cite, « toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Les causes de l'apatridie sont variées et nombreuses. Il y a, entre autres, la discrimination fondée sur la race, l'appartenance ethnique, la religion, la langue ou le genre. Il arrive que des États privent des citoyens de leur nationalité en modifiant la législation sur des critères discriminatoires. En fait, la majorité des populations apatrides connues dans le monde appartiennent à des minorités. Les lacunes dans les lois aussi sur la nationalité peuvent mener à l'apatridie. Par exemple, dans les pays où la nationalité s'acquiert par filiation avec un ressortissant, les enfants nés de parents inconnus peuvent se retrouver apatrides. Aussi, lorsque les personnes quittent le pays dans lequel elles sont nées, le conflit des lois sur la nationalité peut créer de l'apatridie. Par exemple, un enfant né dans un pays étranger risque de devenir apatride si ce pays-là accorde pas la nationalité en fonction du seul lieu de naissance et si le pays d'origine ne permet pas aux parents de transmettre sa nationalité à l'enfant né à l'étranger. Mm-hmm. Bon, il y a évidemment l'apparition de nouveaux États et les médications, la modification des frontières. Et finalement, il y a le fait de ne pas pouvoir prouver un lien avec un État, par exemple dans le cas d'une naissance non déclarée, puisque sans acte de naissance, ben, on ne peut pas donner la preuve de l'endroit où une personne est née et de ses liens de parenté, et qui sont des informations essentielles pour établir la nationalité. Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, a estimé à 4,4 millions le nombre d'apatrides à travers le monde en 2023, mais ce chiffre-là pourrait évidemment là, être pas mal plus élevé parce que les données disponibles couvrent seulement la moitié des pays. Il y a environ 1,3 million d'apatrides dans le monde qui sont également déplacés. Au cours des 5 dernières années, 20% de tous les réfugiés qui sont réinstallés par le HCR étaient également apatrides. Selon un rapport du HCR publié en octobre, il y a quand même eu des progrès. Il y a près de 600 000 apatrides ou personnes sans nationalité déterminée qui ont obtenu une nationalité au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire depuis le lancement en 2014 de la campagne Hashtag J'existe, qui est destinée à mobiliser l'action internationale pour résoudre le problème des apatrides. On y apprend que 20 pays ont amélioré les droits des apatrides, 13 ont adopté des lois garantissant qu'aucun enfant ne naisse apatride, parce qu'il faut savoir que plus du tiers des apatrides dans le monde sont des enfants. À ce jour, il y a 77 pays qui ont adhéré à la Convention de l'ONU sur l'apatridie et au moins 22 autres ont adopté des plans d'action pour éradiquer ce problème-là. Par exemple, il y a le Kenya qui a accordé la nationalité aux membres des minorités Makonde, Shona et Pemba. Le Kyrgyzstan est devenu le premier pays au monde à résoudre tous les cas connus d'apatridie en son sol. La Sierra Leone, le Madagascar, le Libéria ont fait progresser l'égalité des sexes et la prévention de l'apatridie des enfants en accordant aux femmes le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Faut savoir que dans 25 pays, les lois autorisent toujours pas les femmes à transmettre leur nationalité sur un même pied d'égalité avec les hommes. Donc, les enfants peuvent être apatrides lorsque leur père est apatride, inconnu, absent ou décédé. Mmh. Et bon, ben si on se fie aux modifications que l'Union européenne souhaite apporter à sa politique migratoire, Mathieu, ces progrès-là risquent peut-être de reculer?
Peut-être, peut-être. Merci de me lancer la balle comme ça. On aurait pu parler des Autochtones ici avec la loi sur les Indiens et les femmes et les mères, hein, c'est sûr aussi. Ben oui, merci Marie-Ève de parler d'Europe, parce qu'on va en parler quand même dans les prochaines minutes de façon assez intensive. Un peu de contexte en partant avant de parler des dernières nouvelles. La montée en puissance de l'extrême droite dans de nombreux pays européens pourrait compromettre la solidarité prônée par le tout récent pacte sur la migration et l'asile de l'Union. Il y a 6 mois à peine, l'UE a approuvé une réforme de sa politique d'asile, l'aboutissement de 10 années de difficiles négociations lancées après l'arrivée en 2015-2016 de plus d'1 million de migrants, notamment des Afghans et des Syriens.
Ouais.
Dans le pacte sur la migration et l'asile, les 27 se sont mis d'accord pour répartir plus équitablement les coûts liés à l'accueil des demandeurs d'asile, mais aussi à renforcer la protection des frontières extérieures pour empêcher le plus possible les arrivées. Aujourd'hui, alors que des formations d'extrême droite exercent une influence toujours plus grande dans de nombreux pays européens, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, ce pacte semble plus fragile que jamais. Le dernier exemple en date est l'Autriche. Simon nous en a parlé il y a pas longtemps.
Mm-hmm.
Ces dernières semaines, une série de pays qui avaient joué un rôle déterminant dans l'adoption de l'ensemble des réformes du pacte, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2026 seulement, ont annoncé un durcissement de leur politique en matière d'asile. En France, le nouveau gouvernement de droite a annoncé des plans visant à renforcer les frontières du pays. En Allemagne, le gouvernement de centre-gauche a mis en place des contrôles à toutes les frontières du pays dans le but affiché de mieux maîtriser l'immigration et de supposées menaces terroristes.
Ouais, ça, je vous en avais parlé. Ouais.
Aussi. Aux Pays-Bas, on en avait parlé aussi, l'extrême droite a remporté les dernières élections législatives. Le PVV, le parti qui est majoritaire, ben, qui a le plus de députés, a déclaré à la Commission européenne qu'il chercherait à soustraire les Pays-Bas à l'ensemble des règles européennes juridiquement contraignantes. On en avait parlé, évidemment, je fais un petit résumé. Quelques jours plus tard, Budapest a annoncé des ambitions similaires, suscitant la crainte d'un effet domino.
On parle de la Roumanie, donc.
Budapest, la Hongrie.
La Hongrie,
oui, Budapest, oui. Pour donner toutes les latitudes aux États membres, il faudrait toutefois renégocier les traités de l'UE, et on va en parler dans quelques minutes. Il est théoriquement possible d'obtenir des dérogations à la législation européenne pour certaines politiques. Le Danemark en a une pour sa politique migratoire, mais il faut l'accord de tous les autres
États.
Les
27, c'est ça.
Exactement. Pendant les 2 prochaines années, chaque État membre devra transcrire le nouveau pacte européen sur l'asile dans sa propre législation nationale. Mais pour les leaders d'extrême droite, la partie la plus controversée de la réforme est le mécanisme qui oblige tous les États membres à accueillir des demandeurs d'asile provenant d'autres pays afin de répartir les nouveaux arrivants de manière plus équitable. Les États qui refusent ces relocalisations devront payer une contribution financière de 600 millions d'euros par année ou offrir un soutien logistique à la place. Ça aussi, on en avait parlé à l'époque. Coup de théâtre, le 15 octobre dernier, la Commission européenne veut réfléchir à renvoyer les migrants vers des pays tiers. Sa présidente, Mme von der Leyen, a écrit aux 27 pour leur proposer l'ouverture de hubs. On va définir ça tantôt. Elle prend pour exemple l'accord de transfert de migrants entre l'Italie et l'Albanie pour, dit-elle, tirer les leçons de cette expérience intéressante. Jusqu'à présent, ces projets de hubs n'étaient défendus que par les pays gouvernés par l'extrême droite, comme l'Italie et la Hongrie. Et là, c'est la chef de l'exécutif européen elle-même qui le propose officiellement aux 27 pays de l'Union. Cette inflexion n'est pas totalement une surprise. Le PPE, le Parti populaire européen, la formation politique d'Ursula von der Leyen, soutenait déjà l'idée de ces centres de retour hors des frontières de l'UE. Madame von der Leyen est obligée de composer avec... Jamais les formations anti-migrants n'ont été aussi fortes au Parlement européen. Ce qui fait que Madame von der Leyen est obligée de composer avec elle pour faire passer des textes. Un accord tacite existe déjà au Parlement avec le CRE, le groupe conservateur et réformiste de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Donc, il y a des tractations assez politiques là, qui se passent déjà au niveau du Parlement pour qui mène à ce genre de propositions-là.
Mais là, ça va venir affecter le pacte qui a fini par être adopté après 10 ans, mais qui n'est même pas encore en vigueur.
Exact. Mais j'arrive justement aux propositions qui s'en viennent. Le 17 octobre, réunis en sommet européen à Bruxelles, les États membres de l'Union ont débattu du dossier migratoire. Si les 27 s'accordent sur la pertinence d'une nouvelle législation pour augmenter les expulsions des migrants, ils ne sont pas d'accord sur les moyens à mettre en œuvre. La mise en place de hubs de retour hors de l'UE, notamment, divise le bloc. Pourtant, le nombre de migrants a chuté cette année, affirme Frontex. Les passages clandestins aux frontières de l'Union ont baissé de 42% sur les 9 premiers mois de 2024, comparé à la même période de l'année précédente. Si une hausse est enregistrée du côté de l'Atlantique...
Les chiffres de Frontex, j'imagine qu'ils donnent les bons, là. Ils doivent pas être...
Ils doivent pas les surestimer, c'est ça, c'est sûr. Si une hausse est enregistrée du côté des Canaries, Frontex note une baisse de 60% via la Méditerranée et de 80% via la route des Balkans.
C'est fou.
Qu'importe cette réalité chiffrée, j'ouvre les guillemets, le Conseil européen appelle à agir de manière déterminée à tous les niveaux pour faciliter, accroître et accélérer les retours depuis l'Union. À quoi pense-t-il exactement? Aux hubs de retour des centres d'expulsion en dehors des frontières de l'UE, situés dans des pays tiers, sur le même modèle que l'accord Italie-Albanie ou celui des migrants qui seraient renvoyés au Rwanda par le Royaume-Uni, mais qui a été abandonné finalement. C'est ce genre de modèle-là. Ces hubs seraient une première. Jamais encore Bruxelles n'a avalisé une externalisation de sa politique migratoire. Nulle part dans les traités européens, il n'est question de traiter les demandes d'asile ou les éloignements hors du sol de l'Union européenne. Qui est pour? L'Italie, la Hongrie, pas de surprise, mais aussi dans une lettre le 15 mai dernier, envoyé à la Commission, 15 pays de l'Union européenne proposaient déjà d'explorer de nouvelles solutions pour mieux contrôler l'immigration.
L'Allemagne ne doit pas être complètement contre, en tout cas.
Attends. Le transfert de demandeurs d'asile vers des pays tiers faisait partie de cette lettre. Il s'agissait des 15 pays de la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l'Estonie, la Grèce, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne et la Roumanie. Il cite en exemple les accords déjà conclus par l'UE avec la Turquie, la Libye, la Tunisie ou encore l'Égypte.
Fait que c'est principalement ce qu'on appelle les hotspots, là, c'est-à-dire les pays qui sont pas mal en première ligne, là, tu sais, des frontières. Tu as ceux qui sont en première ligne de la route des Balkans,
oui.
L'autre de la route
Mais l'Albanie, c'est un petit peu à part, par exemple.
Ouais, c'est vrai.
Puis le Rwanda, c'était un petit peu à part.
Oui, non, mais je parle des pays qui souhaitent...
les partenariats, disons, pour plus proche de l'Europe, pour être raison. Qui est contre officiellement? L'Allemagne, la France, même si, bon, le président français s'oppose à la question des hubs, mais son ministre de l'Intérieur, un certain Bruno Retailleau, est pour lui. Donc, ça va être à voir qui est pour, qui est contre vraiment. L'Espagne est contre officiellement, mais en même temps, l'Espagne a aussi une ligne dure. Cette semaine, le ministre espagnol de l'Intérieur a demandé à Frontex de se déployer au large du Sénégal, de la Mauritanie et de la Gambie pour empêcher les traversées vers les Canaries.
Ben, les Canaries, c'est ça.
Mais on s'entend qu'on n'est pas en Europe, là.
Non.
Puis ils veulent envoyer Frontex.
Non, c'est ça.
En Atlantique. Sinon, en revanche, l'ensemble du bloc européen s'est montré favorable à l'écriture d'une nouvelle loi pour accélérer les expulsions des migrants et ainsi remettre en question la directive Retour, qui, depuis 2008, harmonise les règles européennes en matière de reconduction frontière. Donc là, on revient sur le pacte, là. Cette directive permet de protéger les exilés en leur garantissant un droit à l'aide judiciaire, des mesures d'assistance contre la mise à disposition d'interprètes ou la fourniture de soins médicaux, tout en fixant les cadres de l'expulsion, limitation de la durée de rétention administrative à 18 mois maximum dans l'UE, placement en centre de rétention en dernier recours, proposition d'une aide au retour volontaire avant un éloignement forcé. Cette révision de la directive Retour intervient alors que l'Union européenne vient d'adopter le pacte, donc on l'a dit en mai dernier. Ce pacte durcit déjà les contrôles et établit un mécanisme de solidarité. L'Allemagne, la France et l'Espagne plaident d'ailleurs pour accélérer sa mise en place plutôt que de s'enliser dans de nouveaux projets de loi, ben comme ce que propose Ashley Hobbs et Mme von der Leyen. Mm. Donc, c'est un peu ça. Puis, ben, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais l'accord Albanie-Italie a été invalidé par la justice italienne il y a 2 semaines. Les migrants qui étaient supposés se rendre, ils ont été en cours, ils étaient même pas rendus, qui ont été ramenés en Italie. Et là, le gouvernement italien a fait un projet de loi pour contourner la décision des juges. Fait que là, c'est la question des pays sûrs, entre autres, là, l'enjeu au niveau juridique. Mais là, c'est le chaos un
c'est
peu.
C'est ça, ça passe peut-être pas le...
Ça passe pas le test.
Le test des tribunaux.
Puis au niveau de la Commission des droits de la personne de l'homme de l'Europe, ça passerait pas non plus. Fait que, bon. Fait que c'est pas fini, ces histoires de Hobbes et d'accords et de partenariats et tout ça. On va en reparler à l'émission.
Oh, misère.
Voilà.
Ben, écoutez, on va s'en aller en musique. On va te retrouver un peu plus tard, Mathieu. On va l'écouter, je vous en dirai plus au retour, mais Snotty Nose, Rez Kids avec la pièce No Dogs Allowed. Me out the crowd, nah. Won't take me home from the pound. I've been a beast, no doubt. Don't say what's up, say out. Broski said, go get it. He said, bitch, go make me proud. Yeah. Bitch, go make no sound. Nah. Ain't no dogs allowed. Bro. That's rage, dog. My ankles up. My spit, feel sacred, bro. Ain't the type to be fake with Joe. We get pumped up like bankers. Y'all, my girl, mad. Don't blame her, bro. Been up all night with strangers, y'all. Yeah. Hard as fuck, my dick stay tough. Don't hang around, get off my nuts. Got the ticket, I'm golden, golden. Limp Bizkit, I've been rolling. Rollin' Caesar, baby, I'm roaming, roaming. I'm ruthless like Eazy-E. Since a pup, I've been knowing, knowing. They don't like when we showing, showing. Not no doubt, it's we, not me. My dog with me like yeah. EPG. Subway, little bud bloom. Headbanging, need headroom. We're heating up in the red room. I thought we'd all be dead soon. We let you, boy, sun is loose. We'll take the shots, we bulletproof. No ceilings here, don't need no roof. We big dogs like rock, rock. Off the chain, don't need no savior. So deranged, do me one favor. Get the fuck up out of here. If you ain't here for the rager, ay, y'all gon' test my patience, dog. We don't waste no time at all. Like 357, I can't even know. I can't fuck with y'all. Fuck foul, you came with. Savage mob, we came late. I'm your bestest favorite man. We ain't the boys to play with. Sucking off these bangers. These noise complaints for neighbors. Cradle wouldn't tame us. Say you built us for these rangers, yeah. Can't pick me out the crowd. Won't take me home from the pound. I've been a beast, no doubt. Don't say what's up, say out. Ay, broski said go get it. He said be gon' make me proud. Ay, bitch don't make no sound. Ay, ain't no talks allowed. Hey, can pick me out the crowd. Won't take me home from the pound. I've been a beast, no doubt. Don't say what's up, say out. Broski said go get it. He said be gon' make me proud. Bitch don't make no sound. No talks allowed. On écoutait le duo de rappeurs Snotty Nose, Rez Kids, qu'on pourrait traduire par les petits morveux de la réserve, issus de la Première Nation Aisla. La pièce s'intitulait No Dogs Allowed et est tirée de leur plus récent et 6e album quand même. Je ne connaissais pas avant. Album qui s'intitule Red Future, paru en septembre et qui figure étrangement au palmarès international de choc alors qu'ils viennent du village de Kitimat en Colombie-Britannique. Trouver l'erreur.
Des séparatistes qui font, qui déterminent. <En tout cas. rire>
Plusieurs de leurs albums ont été nominés au Polaris ou encore au Juno, entre autres. Puis ils vont être en concert là, à Montréal prochainement, le 30 novembre, au Belmont. Alors, Radio-Canada a publié une série d'articles sur l'influence que pourrait avoir le vote des Autochtones sur l'issue des élections présidentielles américaines de mardi prochain, dont un super intéressant qui retrace leur longue lutte pour l'obtention du droit de voter. Il faut savoir que les Autochtones des États-Unis y ont acquis la pleine citoyenneté seulement en 1924 sous l'Indian Citizen Act. Mais il aura fallu attendre encore des dizaines d'années pour que les 50 États leur accordent le droit de vote. Dans cet article, on y apprend entre autres que les personnes issues des Premières Nations ont constamment vécu des situations contradictoires parce que très souvent, elles étaient traitées différemment selon le palier de gouvernement. Faut savoir aussi qu'avant la guerre civile, la citoyenneté était la prérogative des États. Donc, par exemple, dans les années 1850, un Autochtone pouvait devenir citoyen du Michigan tout en étant considéré comme un, je cite, corps politique étranger par le fédéral. Je vous invite à aller lire l'article en question qui s'intitule « Aux États-Unis, 100 ans d'obstacles pour la liberté de vote des Premières Nations ». Et ce combat-là, ben, se poursuit aujourd'hui. Par exemple, il y a une particularité des États-Unis, c'est l'existence de politiques qui ont été instaurées spécifiquement pour limiter le vote des personnes marginalisées, comme le redécoupage des cartes électorales, là, on a déjà entendu parler de ça, pour favoriser un parti. C'est une méthode qui est bien connue, qui a été utilisée pour limiter le vote des personnes noires. Ce qui est moins connu, c'est que ça l'est aussi pour limiter celui des Autochtones. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des Autochtones, disons, qui sont plus ou moins hostiles au vote. Dans un autre article de Radio-Canada, il y a Margot Gray, une militante d'origine Osage et directrice générale des United Indian Nations of Oklahoma, qui raconte son expérience sur le terrain, puis elle voit qu'il y a comme trois courants de pensée générationnels à propos des élections. Les aînés, d'abord, disent qu'ils veulent pas voter dans une élection d'hommes blancs. Les plus jeunes, eux, se disent que ce sont ces gens-là qui ont fait du mal à leurs grands-parents, à leurs arrière-grands-parents, qu'ils ont mis dans des pensionnats, donc pourquoi est-ce qu'ils voteraient pour eux autres? Puis enfin, il y a la génération de Mme Gray qui estime que le vote est un moyen de défendre les communautés autochtones. C'est pourquoi plusieurs organismes à travers les États-Unis tentent de mobiliser le vote autochtone, puis à faire sortir le vote, comme on dit, aux prochaines élections, avec des campagnes comme Warrior Up to Vote, Native Get Out the Vote ou Rock the Native Vote. C'est un long travail qui implique d'abord de vérifier que les gens sont inscrits sur les listes, puis que si c'est le cas, que l'inscription est correcte, et que si c'est pas le cas, ben de les inciter à s'inscrire ou à se réinscrire si les personnes avaient été rayées des listes. Faut dire qu'il y a 1 million d'Autochtones de plus de 18 ans qui n'étaient pas enregistrés sur les listes électorales selon un rapport publié par The Native American Rights Fund en 2020. Alors, voilà, on va poursuivre avec les actualités autochtones canadiennes et québécoises, cette fois avec Simon, qui est in the house.
Ouais, ben je suis pas un warrior qui va get out the vote, là, mais c'est cool, les noms de campagne. Puis 1 million de non-inscrits,
c'est quand même beaucoup.
Ce n'est pas rien. Donc, quelques actualités, on revient dans notre plat Canada, genre de revue de presse, comme souvent, parmi 1000 enjeux possibles, encore une fois. Je commence avec une question légale identitaire avec le contesté Conseil communautaire de Nunatsiavut, groupe présidé par Todd Russell, ancien député libéral fédéral, tiens donc. Ce conseil communautaire se prétendait autrefois métis, maintenant inuit. Il se trouve au Labrador et il n'est reconnu par aucune autre organisation officielle inuit ou métis confondue. Il s'est autoproclamé inuit assez récemment d'ailleurs et sans aucune autre forme de certification et depuis 2010, il a reçu pas moins de 74 millions en subventions relatives entre autres à la pêche, en plus de licences qui octroient des droits particuliers et ce malgré plusieurs avertissements, dont une lettre formelle envoyée il y a plus d'un an au bureau du premier ministre Trudeau par l'organisme Tapirit Kanatami, qui lui est officiellement reconnu et qui représente 70 000 Inuits. La lettre
n'a juste... que de métis à Inuit, là...
Il y a quand même une masse aussi, puis si on regarde où sont concentrés...
Confusion identitaire ici, là.
Légèrement, les Inuits étant aussi surtout concentrés dans le centre-ouest du pays, mettons, on est quand même loin du Labrador. Donc, la lettre n'a jamais reçu de réponse et comme je viens de le mentionner, la subvention demeure, le financement continue d'être versé de manière récurrente. Le dernier versement date d'il y a quelques semaines, un petit 161 000 $ accordé à des pêcheurs du Labrador autoproclamés Inuits. C'est extrêmement préoccupant pour les questions identitaires en tant que telles, mais pour les questions financières plus concrètes aussi, puisqu'on peut associer cette pratique à du vol, à de la fraude, à un détournement de fonds qui est destiné aux Inuits,
ouais,
mais qui finit dans les poches d'Alloctones, et on le sait, les programmes, les ressources destinées aux communautés autochtones, c'est plutôt limité.
Ouais.
Donc, ça vient priver les communautés de leviers assez importants pour leur développement. Je vais citer Nathan, je sais pas si c'est Nathan ou Nathan Obed, président de l'Inuit Tapirit Kanatami. Cette nouvelle forme de colonisation dans laquelle des Canadiens non autochtones deviennent autochtones et profitent ensuite matériellement des peuples autochtones est désormais une chose nouvelle et normalisée. Donc, dossier à suivre. Les Inuits ont peu d'espoir de règlement à court terme, mais n'entendent pas lâcher le morceau.
Ben non, j'espère bien.
Autre nouvelle en lien avec le financement fédéral, encore une fois. Le 4 octobre dernier, c'était la Journée nationale d'action pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. On va donc aller au Manitoba pour l'annonce d'un investissement pas mal moindre que pour les autochtones du Labrador, un petit 1,3 million accordé au projet pilote Robe Rouge, un système semblable aux alertes Amber en cas de disparition d'une femme ou d'une fille autochtone. Il faut rappeler que les femmes autochtones, par rapport à la population féminine générale, demeurent fortement sous-représentées dans les cas de disparition à long terme non résolus. Le projet pilote est accueilli de manière favorable par les porte-paroles qui sont exprimées, surtout sachant qu'en cas de disparition, la rapidité avec laquelle on se mobilise, c'est probablement un des principaux facteurs c'est vraiment crucial. Il faut agir dès les premières minutes et les premières heures. On sait que plus le temps passe, plus les chances diminuent, mais plusieurs intervenantes en profitent pour nous rappeler qu'on ne s'est jamais attaqué sérieusement aux causes plus profondes de ce phénomène et insistent sur l'ampleur du travail qui reste à faire. Le projet pilote concerne le territoire manitobain. J'imagine qu'après une période de rodage, il y aura un post-mortem et que ça pourrait être étendu à d'autres provinces. Autre nouvelle maintenant, l'interminable saga de l'accès à l'eau potable dans les communautés autochtones qui fait l'objet d'un recours collectif de 1,1 milliard de dollars contre le fédéral, qui devrait connaître une avancée significative prochainement puisqu'un juge de la Cour fédérale en Saskatchewan doit se prononcer sur l'obligation ou non du gouvernement de fournir de l'eau potable à tout le monde. Et le recours concerne à la fois des individus et les 59 communautés à travers le Canada qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable via un système d'aqueduc comme on connaît. L'avocat des demandeurs...
qui est une technologie de pointe très difficile à installer.
Ben, qui est la façon d'acheminer l'eau potable dans les foyers, dans les commerces, etc.
Voilà.
parce que ça a l'air niaiseux, mais ça se passe par camion-citerne actuellement. Puis plus t'es éloigné, ben plus c'est difficile, puis plus il peut y avoir des périodes où il n'y en a carrément pas d'eau potable.
C'est ça.
Donc, l'avocat des demandeurs affirme que que les avocats du fédéral ne cherchent qu'à discréditer les plaignants en essayant de démontrer que la preuve présentée serait incohérente, tout en prétendant que l'accès à l'eau potable ne serait qu'une question de bonne gouvernance et non une obligation légale. Donc, on joue un peu sur les mots et les concepts juridiques, tout en essayant d'évacuer l'enjeu en cause plutôt que de discuter franchement de l'objet de la poursuite. On cherche même, selon certains des représentants des Premières Nations, à blâmer les Autochtones eux-mêmes pour les lacunes en matière d'accès à l'eau potable. Si on se fie à la teneur des contre-interrogatoires qui ont été jugés longs, pénibles et on pourrait ajouter culpabilisants, paternalistes, méprisants et trompeurs. Je vais citer Jordana Hill, le chef de la Première Nation de Shamattawa au Manitoba. On m'a posé des questions qui cherchaient à me blâmer, moi et mon conseil de bande. Plutôt que de se regarder dans le miroir, le Canada nous montre du doigt pour les conséquences tout à fait prévisibles de ses propres actions. Les demandeurs soutiennent donc que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental qui a été violé par le Canada. Le Canada décidant lui-même l'emplacement des terres réservées aux Premières Nations en limitant leur pouvoir de gestion des infrastructures et en restreignant leur capacité à obtenir elles-mêmes de l'eau salubre. Moi, je me permets personnellement d'ajouter, en décidant lui-même, sans consulter les Premières Nations, comment, quand et à qui octroyer les permis d'exploitation, d'extraction des ressources naturelles, des activités économiques qui ont une grande incidence sur l'eau potable et sur les écosystèmes en général. On attend toujours la décision du juge Paul Favel. Les audiences ont commencé depuis 3 semaines. Ça ne devrait pas être si long, mais peu importe de quel côté il va pencher, j'ai l'impression que ça va ensuite se rendre jusqu'en Cour suprême.
Probablement, oui.
Parce que le fédéral, vraiment, les avocats sont très agressifs.
Oui, c'est ça.
Dernière nouvelle, autre dossier compliqué que je vais raconter très sommairement. Il y a eu un vote des chefs des Premières Nations réunis à Calgary il y a 2 semaines. Sur le règlement de 47,8 milliards de dollars pour les services à l'enfance dans les communautés autochtones. Malgré la peur que ce règlement disparaisse ou soit édulcoré advenant l'élection des conservateurs à Ottawa, les chefs l'ont quand même rejeté avec une assez forte majorité, 267 contre, 147 pour et une abstention. Genre, je sais pas. Suite à de longues et assez émotives discussions...
Peut-être un
autochtone. Oui, qui s'est infiltré dans l'Assemblée. Je sais pas, il est chef de quoi, par contre. Donc, il y a eu des discussions quand même longues, émotives, portées entre autres par Cindy Blackstock, la femme qui est à l'origine de la plainte, qui est à la base de la saga judiciaire. On a qualifié l'accord de simple compromis pour les raisons suivantes. D'abord, l'accord n'était pas clair sur le contrôle des services à l'enfance par les Premières Nations. Ou si on considérait qu'il y avait des lacunes importantes en cas de recours juridique si les termes de l'accord ne sont pas respectés. Et enfin, on déplorait l'absence d'engagement de financement à long terme, puisque l'accord proposé ne va pas au-delà de 9 ans, comme même pas une génération. Donc, comme si on ne se préoccupait à moitié de la génération actuelle, puis pas du tout des générations futures. Donc, décision déchirante, mais courageuse.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Puis ça montre la volonté ferme des Premières Nations de se battre jusqu'au bout pour retrouver leur autonomie complète et réparer le sous-financement des services à l'enfance jugés discriminatoires, volontaires et imprudents par le Tribunal canadien des droits de la personne en 2016.
Puis j'ajouterais que ben, quand on voit comment ça se passe justement dans le dossier de l'eau potable, ils ont raison de se méfier, disons, et de s'assurer que... les accords qui signent ou les ententes qui signent soient...
Béton. Contraignant.
Oui.
Complètement.
Exactement.
Oui, parce que ça peut être fragile autrement. T'sais.
Merci, Simon. Alors, on va aller écouter quelques notes de musique et on vous revient tout de suite après. Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes. On reste au Canada et au Québec avec des nouvelles en lien avec le racisme systémique et ordinaire, mais aussi avec la police. Deux choses qui vont souvent ensemble.
Ben non.
D'ailleurs, avant de continuer avec Simon, une bonne nouvelle quand même du côté du profilage policier. La Cour d'appel du Québec a confirmé une décision historique rendue en 2022 par la Cour supérieure selon laquelle les contrôles routiers aléatoires par la police conduisaient à du profilage racial. La décision rend donc inopérant l'article du Code de la sécurité routière qui permet à la police d'arrêter au hasard des conducteurs sans avoir de soupçon raisonnable qu'une infraction a été commise. Dans sa décision unanime, rendue par trois juges, la Cour d'appel a statué que la loi viole les droits garantis par la Charte, notamment le droit de ne pas être détenu arbitrairement et le droit à l'égalité. Pour rappel, cette action-là avait été intentée par Joseph Christopher Luamba, un Montréalais noir de 22 ans qui affirmait avoir été arrêté par la police québécoise près d'une douzaine de fois sans raison et qu'aucune de ces interpellations avait donné lieu à une contravention. Dans sa décision de 2022, le juge de la Cour supérieure avait écrit que, je cite, « le profilage racial existe ». Il avait ajouté que ce type de contrôle routier faisait que, je cite encore une fois, l'état de droit devient ainsi une brèche par laquelle s'engouffre cette forme sournoise de racisme. Donc, c'est quand même sans équivoque les mots du juge. La décision de la Cour d'appel donne au gouvernement provincial 6 mois pour apporter les modifications nécessaires au Code de la sécurité routière. Le jambon ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel...
Le ministre du jambon?
Le boucher.
Bon. A réagi avec ce lumineux commentaire.
Oh, j'ai hâte de l'entendre.
Ce n'était évidemment pas la finalité recherchée. Cette décision pourrait avoir des impacts directs sur le travail des policiers pour assurer la sécurité de la population. Nous prendrons le temps d'analyser le jugement. Nous limiterons nos commentaires pour le moment.
Donc, en Cour suprême, éventuellement, ça aussi?
Ça risque.
Il y a des chances. Hein?
Des grosses chances, selon moi. Alors, voilà.
Ben, la pourtant, je croyais qu'il y avait des précédents de d'autres provinces qui s'étaient rendus jusqu'en Cour suprême, mais il semble que ce soit recommencé à chaque fois. Mais...
Non,
sur cette question-là?
Sur cette question-là, non. Okay. Non.
Mais la Cour suprême peut refuser d'entendre l'appel aussi. Là.
Oui, ah oui, elle pourrait.
Puis
oui,
là, ben, on se ramasse à volo.
À volo. La table est mise pour toi, Simon.
Ben, on commence avec, vous savez, le petit écusson Thin Blue Line, là, cousu sur des uniformes de police, le drapeau canadien noir et blanc avec une ligne bleue au milieu, qui est censé honorer la mémoire d'agents de police morts en service. Marie-Ève pleure, vous le voyez pas ici. Tout le monde sait que c'est un symbole qui est en opposition au mouvement Black Lives Matter et utilisé par toutes sortes de mouvances d'extrême droite. Il y avait eu tergiversation dans plusieurs corps de police au Québec et au Canada. Le SPVM avait fini par pseudo-trancher en réaffirmant sa politique comme quoi les uniformes ne peuvent pas être modifiés, en proposant un genre de sticker de remplacement. Fadi Daguerre était bien emmêlé dans ses pinceaux quand il parlait de ce sujet-là. Il y a des agents de la STM qui sont des constables spéciaux du SPVM. Je crois que ça aussi, c'est un peu ambigu. Qui continue de porter cet écusson actuellement, le Thin Blue Line, et c'est toléré par la direction de la Société de transport, malgré qu'il y ait une interdiction formelle au niveau de la STM. Donc, des constables spéciaux pensent que c'est une bonne idée de s'afficher comme raciste dans le métro de Montréal. Ils doivent se dire qu'auprès des centaines de milliers de gens racisés qu'ils fréquentent chaque jour, ça va sûrement favoriser la confiance et même faire des
et
belles...
Et le dialogue.
Le dialogue, des belles interventions harmonieuses, un beau climat de vivre ensemble dans l'espace public. Je cite Maxime Fortin, porte-parole de la Ligue des droits et libertés à propos du port de cet écusson. C'est un positionnement hostile au mouvement antiraciste et hostile à toute critique de la police. Puis après, quand le constable Kevin de Candiac est filmé en train de faire du profilage racial au métro Saint-Michel, il se plaint qu'on traite de raciste sur les réseaux sociaux. Donc, honte à la STM de tolérer ça, honte aussi au SPVQ à Québec, je crois le dernier grand corps de police au Canada qui continue de tolérer le port du Thin Blue Line et qui ne semble pas du tout sur le point de mettre fin à ce cirque raciste malgré la pression de plusieurs groupes militants. Le maire Marchand à Québec reste pour l'instant très silencieux sur cette question. Sa ville, d'ailleurs, a reçu un prestigieux prix du gouvernement du Québec récemment, le prix Québec sans racisme, octroyé l'été passé, et disons que cette récompense a fait réagir pas mal de monde. La ville de Québec, eh oui.
C'est qui donne ça, ce prix-là?
C'est le gouvernement du Québec.
Ça doit être qui donne ça à lui?
Qui donne ça à une institution ou à une municipalité. Ou,
OK.
Ça doit être Bonnardel.
Ah, ouais, c'est ça!
Ça se pourrait. Il est peut-être sur le jury. Là. Il y a un article sur Presse-toi à gauche qui met en lumière les contradictions entre ce prix et la réalité du racisme au sein de l'administration municipale de Québec, qu'on qualifie d'emmuré dans le déni du racisme. Le titre de l'article, il fait écho. Lutte contre le racisme à Québec, la récompense du déni, signé par un regroupement de groupes de pression qui comprend entre autres le collectif de lutte et d'action contre le racisme et la Ligue des droits et libertés section de Québec. Ce que le gouvernement a voulu récompenser, c'est le programme Parcours du vivre ensemble, basé sur l'approche EDI, équité, diversité, inclusion. Approche généralement, qui en soi n'est pas mauvaise, mais qui est fortement incomplète si on se limite à ça comme lutte contre le racisme, qu'on critique souvent pour son réductionnisme, son simplisme et son inefficacité.
Ben, beaucoup critiquent aussi que ça revient à faire du tokenisme, comme on dit, là, c'est-à-dire...
Ben, du tokenisme non personnifié, là, du ouais. Tokenisme d'intention. Là, je sais pas comment... Oui, je pense qu'on comprend. Je comprends ce que tu veux dire, Marianne. Donc, dans le cas de la Ville de Québec, ce programme-là, Parcours du vivre ensemble, il inclut un tutoriel de 3 heures sur le mieux vivre ensemble au travail, tutoriel optionnel, donc même pas obligatoire. Et il y a un deuxième élément quand même fondamental, là, ça fesse, là, vous allez voir, des petits badges d'ambassadeurs du vivre ensemble, petit écusson qu'on peut ajouter sa signature automatique au bas des courriels.
Ah, je pensais qu'on pourrait le mettre par-dessus notre écusson Thin Blue Line.
Ben, tu peux toujours te l'imprimer puis le coudre à côté de ton Thin Blue Line si tu veux. Donc, deux initiatives qui, semble-t-il, correspondent aux critères du gouvernement pour décerner le prix Québec sans racisme. Les critères étant se distinguer par des réalisations remarquables et un apport exceptionnel à la lutte contre le racisme. Alors, bravo, Québec!
C'est misère.
Le collectif qui signe l'article nous rappelle que la Ville de Québec n'a pas de plan de lutte contre le racisme. Signe sinon quelques initiatives pour la promotion de la diversité, ou encore que son maire n'a jamais déclaré de manière franche qu'il entendait lutter contre le racisme. On nous rappelle aussi que la Ville ne reconnaît pas le profilage racial tel que pratiqué par le SPVQ. Et je rappelle aussi que l'écusson Thin Blue Line est toléré au sein des agents de police. On revendique que, donc, un resserrement des critères d'attribution du prix Québec sans racisme, et peut-être enlever Bonnardel du jury s'il est là, je sais pas si c'est lui.
Jambon.
Ouais, ben, c'est le ministre du jambon, finalement. Je crois que je vais terminer maintenant avec une dernière nouvelle, très rapidement, cette histoire de ce garçon noir à Longueuil qui a été ébouillanté par une riveraine de l'école que fréquente ce petit garçon de 10 ans. L'assaillante avait été arrêtée puis relâchée sur promesse de comparaître, ce qui avait provoqué la colère pas seulement de la famille de la victime ou de la communauté afro, mais de la population en général. Il faut savoir que l'agresseuse a choisi d'attaquer un enfant noir parmi un groupe d'enfants plus large, qui laisse supposer que cette agression a fort probablement un caractère raciste. Faut mentionner, suite à de nouveaux éléments d'enquête, que l'assaillante, on va la nommer, s'appelle Stéphanie Borel. Elle est finalement détenue jusqu'aux premières audiences en janvier prochain. Mais j'ai appris aujourd'hui même qu'elle vient d'être relâchée. Deuxième fois relâchée.
Ouais.
Parce que son fils, semblerait-il, serait garant d'elle et l'hébergerait à Longueuil aussi. Je sais pas si c'est dans le même quartier à Longueuil, par contre.
OK.
L'histoire avait fait le tour des médias québécois pendant 2-3 jours, mais ce qu'on sait moins, c'est que cet événement grave, ajouté à des incidents récents semblables, ça aussi a intensifié l'inquiétude et provoqué une mobilisation chez les communautés noires et leurs alliés dans la région de Montréal. Pour en savoir plus sur les revendications de la communauté, je vais vous inviter à lire un autre article de presse sur laconverse.com. Le titre est « Enfants ébouillantés à Montréal, la communauté noire s'inquiète pour la sécurité de ses enfants ».
Oui, il y a eu une manif aussi à Montréal, je pense, à travers tout ça.
Il y a eu une petite manif, je crois, devant le palais de justice de Longueuil ou à Montréal.
Non, à Montréal.
À Montréal, c'est
oui,
ça.
Oui, oui, oui.
Bien, écoute, merci Simon. Alors, on va aller en musique avec du grunge francophone.
Oh!
On vient d'entendre la pièce « Paquebot » de l'artiste montréalaise Caro D, pièce qui est tirée de son tout premier album aux sonorités grunge, comme je le disais juste avant. L'album qui s'intitule « Hey Man » paru en avril dernier. Dans le post Facebook de l'émission de ce soir, on annonçait un drôle de lien entre le Rwanda et la Libye. C'est que peu de gens savent que depuis septembre 2019, le Rwanda accueille dans le centre de transit de Gachara, une petite ville située à 40 km au sud-est de Kigali. Donc, ce centre accueille des demandeurs d'asile évacués par l'ONU des prisons libyennes. Mm-hmm. Le centre accueille donc quelques 600 réfugiés dans le cadre d'un programme appelé Mécanisme de transit d'urgence, qui vise, comme je le disais, à évacuer les personnes vulnérables des centres de détention libyens, de les installer dans le centre rwandais, puis de les transférer éventuellement dans un pays occidental qui accepte leur dossier.
Mmh, ben oui, hein?
Le programme prévoit aussi la possibilité de rentrer dans son pays d'origine ou même de rester au Rwanda. L'objectif de l'ONU est d'offrir aux réfugiés un temps de répit au Rwanda avant de partir vers un pays tiers. Le problème, parce qu'on sent bien qu'il y en a un, c'est que pour plusieurs personnes, ce transfert censé être temporaire s'est transformé en une attente, disons, permanente.
Ouais.
Un article d'Info Migrant parle du cas de Ishad, un jeune Soudanais qui est arrivé au centre en 2022 et qui n'a toujours pas été accepté par un pays tiers. Sa demande de réinstallation au Canada pour rejoindre sa sœur a été refusée il y a quelques mois.
Ah oui.
On lui a pas donné de raison ni offert la possibilité de porter la décision en appel parce que les pays tiers peuvent en effet refuser certains dossiers. Les demandeurs d'asile, dans ce cas-là, doivent recommencer les procédures à zéro depuis le Rwanda et déposer un nouveau dossier de réinstallation vers un autre État. Ça peut prendre des mois, voire des années, mais c'est qu'en théorie, les gens sont pas censés rester là pendant plus que 6 mois, parce que comme ce sont des personnes vulnérables, elles devraient avoir de fortes chances d'obtenir le statut de réfugié. Les personnes exilées qui atterrissent à Gachara sont en grande majorité originaires d'Érythrée, de Somalie, du Soudan. Ils vivent tous avec les traumatismes laissés par leur passage dans les prisons libyennes. C'est donc aussi là pour tenter de rompre le cycle de violence que l'ONU a ouvert ce centre de transit-là. Et si les humanitaires et ONG concèdent qu'il vaut mieux être transféré au Rwanda que de rester en détention en Libye, ben ils considèrent aussi que le programme de l'ONU est ni une solution miracle ni un exemple à suivre. Après tout, l'ONU estimait en décembre 2023 que le nombre de migrants en Libye dépassait les 700 000, alors que le centre de Gachara ne compte que 600 places.
Ben oui, puis moi j'aurais deux questions. Ils pourraient les envoyer en Angleterre, puis après ça les renvoyer au Rwanda.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est une prison ou c'est plus un...
Non, c'est un centre.
C'est un centre d'accueil.
Ils peuvent sortir.
Ils peuvent aller travailler, ils peuvent aller...
Non, c'est ça. Okay. Ça fait partie des problèmes, vous allez voir. C'est que... comme je disais, le programme offre aussi la possibilité d'un séjour permanent au Rwanda, mais à date, il n'y a aucune des 2000 personnes passées par Gachara qui a choisi de rester là. Il faut savoir que les demandeurs d'asile du centre ne sont pas autorisés à travailler, même si beaucoup d'entre eux se rendent dans les villes voisines et arrondissent l'allocation hebdomadaire qu'ils reçoivent dans le cadre du programme. Ils arrondissent finalement leur fin de mois en travaillant au noir. Je laisse le mot de la fin à Ishad qui dit « Je suis reconnaissant de m'avoir permis de quitter la Libye, mais faire venir des migrants depuis l'Europe jusqu'ici pour traiter leur demande d'asile, c'est une très mauvaise idée. Les Rwandais ont déjà du mal à trouver du travail. Comment peut-on s'attendre à ce que des réfugiés traumatisés par l'exil qui ne connaissent pas le pays, ne parlent pas la langue, puissent le faire? »
Oui, ça résume bien.
C'est une bonne question.
Oui, oui.
Mais donc, Mathieu, et oui, toi, on te retrouve. Là, toi, tu nous amènes sur l'île que se partagent Haïti et la République dominicaine.
Oui, l'île d'Hispaniola, dans les Antilles, les Caraïbes. Ça va pas bien en Haïti. Petite mise à jour de l'OIM récemment. Plus de 700 000 personnes, dont des enfants pour la moitié, sont actuellement des déplacés internes en Haïti, forcés de fuir à cause de la situation humanitaire désastreuse et de la violence, indiquait début octobre l'Organisation internationale pour l'immigration. Cela représente une hausse de 22% par rapport au mois de juin. Ça fait pas longtemps, en 3-4 mois. La majorité des personnes déplacées en Haïti, environ 75%, sont désormais hébergées dans les provinces du pays, donc en dehors des grandes villes. Les communautés d'accueil continuent de faire les frais de cette crise, rappelant que 83% des personnes déplacées sont actuellement dans des familles, dans leurs familles,
okay,
ou chez des amis. Ils ne sont pas dans des camps, donc
okay,
c'est vraiment une charge assez importante. Les infrastructures et les services locaux sont également soumis à une forte pression. L'insécurité alimentaire, un logement adéquat et l'accès aux soins de santé et à l'éducation figurant parmi les problèmes, les besoins les plus pressants pour tous ces déplacés. Mais pendant ce temps, la République dominicaine a annoncé début octobre aussi un plan d'expulsion de 10 000 Haïtiens sans papier par semaine. Une décision prise dans le but de lutter contre l'immigration en provenance d'Haïti, évidemment. Je cite le porte-parole du président. Cette opération vise à réduire l'excès de population migrante perçue dans les communautés dominicaines et sera menée dans le cadre de protocoles stricts garantissant le respect des droits humains et la dignité des personnes rapatriées.
Indiqué mais comment est-ce qu'ils vont assurer ça en Haïti?
Non, mais on est arrivé dominicaine. Oui, oui, de toute façon. Mais tu vas voir que ça tient pas la route, évidemment. Depuis son arrivée au pouvoir en 2020, le président Luis Abinader a durci la politique migratoire, multiplié les expulsions de sans-papiers et renforcé la présence policière à la frontière, où a été construit un mur de 164 km qu'il a promis d'étendre à l'ensemble de la frontière. En 2023, 2500 Haïtiens sans papier ont été expulsés. Là, il veut doubler, si on fait le calcul. Là. C'était déjà beaucoup en 2023. Donc, une semaine plus tard, la République dominicaine a annoncé avoir expulsé ou rapatrié chez eux près de 11 000 Haïtiens, alors que son voisin Haïti se démène pour gérer cet afflux non prévu. Cette annonce a incité le responsable haïtien à demander une réunion d'urgence de l'OEA, l'Organisation des États américains. Le représentant d'Haïti a qualifié les expulsions de stratégie de nettoyage ethnique et de campagne discriminatoire contre les Haïtiens en raison de leur nationalité et de la couleur de leur peau. Au moins un demi-million d'Haïtiens vivent en République dominicaine selon des groupes de défense des droits. Des militants affirment que les expulsions mettent la vie de milliers de personnes en danger en retournant en Haïti.
Ben oui.
Il existe un grand nombre de groupes armés qui sont comme des oiseaux de proie qui attendent de profiter d'eux, a déclaré Sam Guillaume du groupe de soutien aux rapatriés et aux réfugiés d'Haïti. Monsieur Guillaume accuse les autorités dominicaines de traquer les Haïtiens, affirmant que certains sont extorqués, violés ou détenus en prison sans eau ni nourriture et soumis à des coups ou à des gaz lacrymogènes lorsqu'ils osent protester. Radafi Rodriguez, conseiller de la République dominicaine à l'OEA, a indiqué que le gouvernement rejetait les accusations de mauvais traitement et prendrait toute plainte très au sérieux et enquêterait. Il a soutenu que la crise en Haïti affectait de manière disproportionnée son pays, affirmant que ces migrants submergent les écoles, les cliniques et les hôpitaux. Ça nous dit quelque chose. Les expulsions massives ont entraîné une augmentation du nombre d'enfants abandonnés à travers la République dominicaine, a averti l'activiste William Charpentier, coordonnateur de la Coalition nationale pour les migrations et les réfugiés qui est basée en République. Ils prennent leurs parents ou l'un des deux parents et laissent les enfants derrière eux, même pendant qu'ils sont à l'école. M. Charpentier a qualifié les déportations de formes de persécution contre les Noirs, contre tout ce qu'il présume être haïtien. Il a déclaré que même les personnes en possession de documents légaux sont détenues et expulsées, une pratique qui, selon les militants, s'est produite des années précédentes. On en avait déjà parlé. Il y allait vraiment au faciès, là, fait que c'est un peu tout le monde. Donc, du 1er au 7 octobre, 7591 personnes ont été déportées et 3323 rapatriées en Haïti, selon le gouvernement dominicain, qui a déclaré que toutes ces personnes étaient haïtiennes.
Ben oui.
Pas si on a des papiers légaux en République ou quoi, sont haïtiennes. C'est ça. C'est ça le point. Fait que ça a l'air que ça se continue depuis. Ça, c'est des chiffres de la mi-octobre, là, donc ça se poursuit. C'était ma nouvelle effrayante, Marie-Ève.
Oui, effectivement. Je pense que c'est la plus épouvantable de l'émission.
Oui.
Bon, mais on va faire aller des casseroles dans ce cas-là. Je commence notre agenda antiraciste par la semaine d'action organisée par la campagne québécoise pour la régularisation et la justice migrante, qui prévoit des activités là, un peu partout au Québec, manifestations, conférences, webinaires, etc. Donc, activités pour soutenir la régularisation des personnes sans statut et le respect des droits des personnes migrantes, quel que soit leur statut. Pour le programme complet, là, vous pouvez, parce qu'il y a quand même pas mal d'activités, puis à travers le Québec aussi. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site de la campagne au cqrjm.org. Il y a un événement que j'aimerais souligner. J'en ai deux, mais le premier que j'aimerais souligner, c'est une manifestation à Montréal pour la régularisation complète et inclusive des personnes sans papier. C'est ce samedi 2 novembre à 13h au métro Rosemont. Les autres revendications sont l'abolition du permis de travail fermé et l'accès à la résidence permanente pour les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires, un moratoire sur les déportations et la justice pour les personnes migrantes, moratoire sur les déportations, pas de moratoire sur l'immigration comme logo
annoncé ce matin. Ouais.
Un autre événement à Montréal dans le cadre de cette semaine d'action-là, c'est une conférence qui vise à remettre les pendules à l'heure, quant à l'amalgame qui est véhiculé entre les personnes migrantes et la crise du logement, mais aussi pour nous outiller pour freiner ce discours-là. Les panélistes sont Stéphanie Barahona, qui est organisatrice au FRAPRU, le Front d'action populaire pour le réaménagement urbain, et Amel Zaza, cofondatrice et directrice de l'Observatoire pour la justice migrante. Et cette conférence, donc, sur immigration et logement, c'est le mardi 5 septembre à 18h30, en mode hybride. En personne, c'est au Centre Saint-Pierre, au 1212 rue Panet, métro Baudry. Faut s'inscrire sur le site de la Ligue des droits et libertés qui organise l'événement. Pardon. Autre conférence, demain vendredi 1er novembre, sur la Palestine cette fois, plus précisément autour du livre « La conquête de la Palestine » de Balfour à Gaza, une guerre de 100 ans. Livre de Rachad Antonius, qui est professeur associé au département de sociologie ici à l'UQAM. Je vous lis le petit paragraphe là, de synopsis du livre. Ce livre n'est pas une histoire du conflit entre Israël et la Palestine. Il n'aborde qu'un seul aspect de ce conflit, qui est le plus central, l'histoire de la mainmise graduelle du mouvement sioniste sur la terre de Palestine depuis plus de 100 ans. Tenir compte de cette vérité élémentaire permet de remettre les pendules à l'heure sur certains débats qui occupent l'espace public, surtout depuis la guerre de Gaza déclenchée en octobre 2023. Donc, cette conférence, c'est donc demain à 18h à l'amphithéâtre AM050 de l'UQAM, juste en face de la Bibliothèque centrale. Jean de Québec, qui vous nous écoutez peut-être, qui...
À l'hôtel de ville de Québec.
Ouais, qui doivent être bien fiers de leur petit écusson.
Puis de leur prix.
De leur prix. Mais aussi Jean de Montréal, qui visitait parfois la vieille capitale. On vous propose une exposition du Musée national des beaux-arts du Québec qui s'intitule « Premier jour, œuvre autochtone de la collection McMichael d'art canadien » et qui permet de redécouvrir près de 200 ans d'histoire grâce à une cinquantaine d'artistes d'un peu partout au Canada. La configuration de l'exposition a l'air super intéressante parce que ça a voulu déjouer l'habituelle présentation chronologique des œuvres pour mieux refléter la temporalité circulaire qui caractérise l'art autochtone, puis les philosophies autochtones aussi. Puis selon la description de l'exposition, tout y est un peu mélangé. Les objets anciens côtoient des objets plus récents, puis il n'y a pas non plus ni de début ni de fin. Fait qu'en tout cas, moi, c'est pas pour vous, mais moi, ça pique ma curiosité. Il s'agit aussi, c'est quand même important comme événement parce que c'est la première exposition sur l'art autochtone canadien qui va circuler sur la scène internationale. Donc là, elle est présentée en exclusivité québécoise au MNBAQ jusqu'au 21 avril 2025.
Ah, ben on va y aller, on va aller à Québec.
On va avoir le temps. C'est déjà la fin de cette édition halloweenesque des Apatrides Anonymes. Je fais une fixation, excusez-moi.
Ben oui, t'as même enlevé ta perruque que t'avais tantôt, Marie.
Ben oui, mais là, ça piquait. Avec les écouteurs en plus par-dessus, là. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, on vous invite à écouter nos autres balados disponibles sur notre page du site de choc.ca ou encore sur notre propre site internet apatridesanonymes.info. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes FM du 107,9 de Radio Victoria deux fois par semaine. On a d'ailleurs rencontré aujourd'hui le nouveau directeur de la programmation
de l'information
Marek.
De Choc, Marek, qui a été à Radio Victoria. Quel heureux hasard.
L'été dernier, ben oui.
On lui souhaite la bienvenue.
Et bon succès.
Et bon. Vous pouvez nous écrire aussi à apatridesanonymes@commercialresist.ca et suivez notre page Facebook. Merci à mes deux chasseurs de vampires préférés, Mathieu et Simon.
Oui, il en manque pas des gros méchants à épingler, hein?
Non, mais il y en a un qu'on a oublié d'épingler aujourd'hui.
Ah, c'est vrai!
Je voulais dédier ma chronique Actualité autochtone à Nosferatu, Blaine Higgs, pour sa cinglante défaite au Nouveau-Brunswick. Un de nos recordman de citations racistes dans l'histoire des apatrides.
Et il a mangé une bonne volée la semaine passée, donc on est bien contents.
Ah, yep! Ouais. Dans les poubelles de l'histoire!
Blaine Higgs!
On va se laisser en musique avec un artiste qui porte un nom qui va bien avec la journée d'aujourd'hui, qui s'appelle Dead, Dead Bob, le projet solo de John Wright, ancien batteur du légendaire groupe britanno-colombien No Means No, qui vient de sortir Life Like, son premier album. Il sera en concert à Montréal au Foufoune électrique le 23 novembre prochain. Et nous, ce qu'on va vous faire entendre, c'est la pièce One of You. Pour ceux et celles qui connaissaient No Means No, vous allez quand même reconnaître un petit
ben, sa voix, évidemment.
Air de familiarité.
Puis les batteries, hein?
Ouais, exact. Ouais. Ouais. Alors, ben, merci encore vous deux. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs, auditrices.
Merci Marie-Ève pour l'animation et la perruque.
Il aurait fallu qu'on fasse un Facebook Live.
Ouais. Et le concept d'Halloween que tu as bien intégré à l'émission.
Quand même, hein? Ben ouais, oui, ben non, oui. J'ai essayé. Là.
C'est bon.
Grande réussite.
Le prochain exploit, ça va être d'intégrer le Thanksgiving, mettons.
Ah ben oui, avec des bruits de dinde.
La fête des morts.
Oh, c'est ça. Bon, ben bonne soirée, puis on se reparle dans deux semaines.
Bye.
of you.